BFM Business et CB News présentent Hebdo.com. Rebecca Blanc-Lelouch.
Au menu aujourd'hui, J-20 avant le festival de Cannes. Quelles ambitions pour le secteur de l'événementiel de luxe? En quoi les soirées privées sont-elles un vecteur de business pour les marques? On en parle avec la fondatrice de la fameuse Terrasse by Alban, Alban Cléré. Simon Tenenbaum passera en revue ensuite pour nous toutes les news d'Hebdo.com. Et pour terminer, on va parler de la nouvelle série événement de Canal+, La Fièvre, qui scénarise les agences de communication de crise. Sont-elles indispensables à l'heure des réseaux sociaux et de la viralité des informations? C'est notre focus du jour, mais d'abord j'accueille mon invité, Alban Cléré. Bonjour Alban Cléré.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être avec nous dans Hebdo.com aujourd'hui. Vous êtes la fondatrice d'Alban Cléré International. Vous êtes un peu la reine, la taulière, la référence de l'événementiel, de l'art et de la culture. Vous collaborez avec les plus grandes marques de luxe, du glamour, des soirées exclusives, de Milan à San Diego en passant par Cannes, évidemment, puisque vous êtes la fondatrice de la célèbre Terrasse by Alban. C'est un peu de place to be hein, pour faire la fête pendant le festival.
Paraît-il, et beaucoup de réseaux aussi.
Beaucoup de réseaux, vous allez nous en parler. J-20 avant le démarrage du festival de Cannes, c'est votre 22e édition. Comment ça se prépare? Exactement. Comment ça va?
Ben là, vous avez réussi à m'avoir entre deux wagons de speed, de stress. Ça va bien, c'est en train de s'organiser. On a de très beaux événements qui arrivent, donc c'est fabuleux. J'ai des équipes de films qui vont venir travailler la journée à ne plus savoir où les mettre, tellement ils veulent tous venir travailler de la Terrasse by Alban. Donc c'est très chouette et surtout j'ai des merveilleux partenaires qui me permettent de construire ce lieu unique et éphémère.
Avec cette terrasse, vous avez créé un lieu culte, un lieu devenu culte, un lieu stylé, une référence pour l'univers du cinéma du monde entier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce lieu et surtout quel est le secret pour entretenir l'image et la notoriété de la Terrasse by Alban?
Je crois que on va commencer par le début de la question. Comment je suis arrivée à
l'histoire du lieu.
L'histoire du lieu, c'est que tout simplement, il y a plus de 20 ans, lorsque je suis venue à Cannes en invité, moi je vivais en Angleterre et il y avait des members clubs, donc des clubs de membres qui permettaient, après le travail, d'aller échanger, faire du business. C'était vraiment pas des clubs de nuit, mais des members clubs. Donc j'ai eu l'idée en venant à Cannes de faire un club de membres qui avait pour but de réunir les gens du 7e art, de l'audiovisuel et de la mode, puisque je viens de la mode, moi, à la base. Donc forcément, je voulais mélanger ces deux secteurs. Et puis, j'ai pris un pari fou de créer un petit endroit au début qui était sous l'hôtel du groupe Barrière, un tout petit endroit et qui était actif que le soir pour faire un late drink. Et puis, bon an, mal an, je me suis vue embauchée par Orange pour m'occuper des relations publiques de la plage Orange et en ayant quand même le petit club le soir. Et puis, il y a 12 ans, j'ai eu la chance d'avoir une reconnaissance médiatique avec le mot Alban Cléré est une marque. Et j'ai décidé d'avoir mon propre endroit qui serait donc ouvert de 9h du matin à 2h du matin pour vraiment couvrir tous les horizons différents et les angles différents. Des activités pendant le festival de Cannes, donc du press junket à une soirée de film, à un shooting d'acteurs pour un magazine, à un lounge privé qui est le dernier volet de cette terrasse, puisque ça commence à 9h et ça finit à 2h30.
Et alors, comment vous avez réussi à perpétuer sur ces 20 ans, 22 ans, et puis à rester moderne, à rester à la mode, à la page?
Je crois déjà qu'on a, enfin, à l'agence, on a le souci du détail. Moi, je suis une passionnée de décoration. J'adore décorer même des appartements. Je pourrais faire ça toute ma vie. Donc, le souci du détail et de la décoration, je pense, est très importante, même si c'est de l'éphémère, même si je n'ai pas les moyens d'un grand groupe. Mais on se donne les moyens, grâce à nos partenaires, de pouvoir faire quelque chose de très beau et très élitiste. Le service qui est très important chez moi. J'ai besoin de mes équipes de serveurs, d'assistants, d'attachés de presse qui vont être là pour faire le réceptif de tout le monde. Et enfin, la modernité, je pense que c'est aussi de s'intéresser aux films de demain, aux jeunes de demain, et à s'adapter au courant de la mode, et de rester quand même moi-même, c'est-à-dire assez intemporel finalement, et de donner ça aux invités. C'est un métier de générosité, l'événementiel.
Et ce qui vous permet aussi de maintenir cette notoriété, c'est quoi? C'est d'attirer les stars? Vous me disiez que c'était un lieu de networking. Ah bon, c'est pas les stars?
C'est très compliqué. D'abord, je vais vous faire rire, Rebecca, mais je déteste le mot star. Moi, je parle de talent. Parce que j'aime bien les talents, parce qu'on a tous des talents cachés. Et à Cannes, il y a beaucoup de talents, de jeunes talents, de futurs grands talents. Et bien sûr que d'avoir des célébrités internationales qui viennent sur ce toit, c'est extraordinaire, parce que ça donne une renommée internationale du lieu. Donc ça, c'est très important. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre d'où on vient et ce qu'on est. C'est-à-dire, je fais du service pour ces gens-là. Et c'est tout important de mesurer une discussion avec un producteur, qu'avec un réalisateur, qu'avec un agent de cinéma, qu'avec un directeur de communication d'une maison de mode, de prendre soin de nos partenaires. Moi, j'ai beaucoup de partenaires cette année. Il faut que je m'occupe d'eux, c'est très important, parce que sans ces marques, le lieu n'existerait pas.
Ouais, vous allez nous en parler justement, ouais, du modèle économique, de qu'est-ce qui fait exister ce lieu. Vous me disiez donc qu'il faut des célébrités, non pas des stars, des célébrités.
Non, des talents, bien sûr, parce que c'est Cannes, et Cannes, ça doit faire rêver.
Voilà.
Bien sûr.
C'est le tapis rouge, c'est le glamour, c'est Cannes.
Il faut faire rêver, c'est
mais
le cinéma.
Il faut aussi des réalisateurs, des agents.
Il faut toute la chaîne du métier qui est très importante.
Il faut de tout. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact économique d'un événement comme ça et la résonance de ces soirées-là?
Alors, l'impact économique, il y a d'abord une production d'un lieu à faire, que l'agence prend en charge. Alors, on sait où on va et après, il faut trouver les partenaires pour nous accompagner dans ce challenge qui est assez incroyable. On parle quand même d'une production, d'une prod, qui va durer 10 jours, à monter, on parle de plus d'un million d'euros, donc c'est quand même beaucoup d'argent pour quelque chose d'éphémère. Il y a des courts-métrages, des petits films qui se font avec un million, donc nous on fait ça pour 10 jours éphémères pour le Festival de Cannes. Cette terrasse, qui s'appelle la Terrasse Bayalban, peut tout à fait être sur un autre festival d'ailleurs, c'est toujours le même schéma, donc on fait une création, et après on va chercher des partenaires qui vont m'aider à financer. La plupart sont les mêmes, d'année en année.
J'ai les grandes marques. Les grandes
la
marques
Maison Dior est à mes côtés. BMW, depuis 10 ans. J'ai aussi la chance d'avoir une nouvelle compagnie aujourd'hui, avec moi à mes côtés, pardon. Pas une nouvelle compagnie, mais en tout cas une compagnie du net qui s'appelle Persol, qui sont très très visibles dans les films depuis tout temps et qui ont décidé de se remettre à la page, entre guillemets, en étant à ma côté pour justement montrer à quel point ils soutiennent le cinéma avec leurs lunettes de soleil dans les films du monde entier.
Donc vous arrivez à renouveler, ouais, aussi, à vous renouveler
temps,
en partenaire.
C'est un partenaire nouveau. On peut dire que les partenaires les plus anciens sont Moët & Chandon, BMW et Dior, qui sont vraiment ceux qui m'épaulent depuis toujours. On a des restaurants aussi qui sont nos partenaires. Chaque année, je change et cette année, j'ai la chance d'avoir une collaboration avec un artiste, avec un homme à part, qui un 3 étoiles Michelin, qui s'appelle Mauro Colagreco, qui a été élu meilleur restaurant au monde dans son restaurant à Menton. Et on va faire un pop-up, une terrasse éphémère, lui et moi, sur le toit, pour les gens du cinéma.
Ça, c'est une nouveauté.
Ça, c'est une nouveauté, ouais.
Vous me disiez que c'était un lieu de networking. Est-ce que vous avez des exemples? Comment est-ce que cet événement aide à générer des opportunités d'affaires?
En fait, il y a un nombre de membres qui ont accès au lieu, qui à peu près s'élève à 300-350 membres. Et puis, ces gens, la journée, peuvent venir faire du travail, faire des rendez-vous de travail, pardon. Comme Media One, qui est un de mes partenaires cette année, et qui a aussi son bureau, ils vont recevoir des producteurs pour travailler, mais d'autres gens vont se croiser, parce qu'évidemment, l'endroit est privé, mais que de gens qui comptent dans le métier, ça fait ce qu'on appelle des liens du réseau, tout simplement. Il y a eu beaucoup d'anecdotes qui se sont passées. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui ont rencontré leurs talents, leurs acteurs de films chez moi. Je sais qu'il y a des producteurs qui ont trouvé des financements sur ma terrasse. Je sais qu'il y a des jeunes producteurs ou distributeurs qui n'avaient pas l'occasion de venir, qui sont venus et qui m'ont remercié parce que beaucoup plus tard, ils ont eu des prix à Cannes et ils m'ont dit « Sans toi, j'aurais pas pu faire le réseau que j'ai construit à travers des années sur cette terrasse. » C'est hyper agréable, c'est hyper flatteur et c'est extrêmement jouissif de voir des projets qui se font grâce à ce lieu. C'est même vital pour nous, à l'agence, de voir ça.
Quel rôle joue la digitalisation? On en parlait aussi dans la communication des événements aujourd'hui. Comment est-ce que vous intégrez ça? Est-ce que vous l'intégrez, premièrement? On sait que ça fait 2 ou 3 ans que le Festival de Cannes a monté un partenariat avec Brut et TikTok. Mm-hmm. Est-ce que ça a impacté votre business?
Alors, moi, Brut sont des partenaires avec joie, parce que j'adore ce qu'ils courent et ça m'intéresse. Donc, ils ont été partenaires de ma terrasse pendant 3 années de suite. D'ailleurs, même avant qu'ils soient partenaires officiels du Festival de Cannes, ils étaient partenaires de ma terrasse. Moi, je fais partie des gens qui aiment les réseaux sociaux, mais mesurément. Voilà. Je n'aime pas quand on va trop fouiller dans la vie des gens. Je n'aime pas qu'on soit intrusif. Donc, je sais que ça fait partie du monde d'aujourd'hui. C'est impératif d'avoir les réseaux sociaux. C'est impératif d'avoir cette com, de cette digitalisation sur les plateformes, les téléphones.
Vous vous en servez pour vos événements ?
On les couvre avec des oui, bien sûr qu'on les, on prend des alors je prends pas TikTok, je suis désolée, mais je travaille beaucoup avec le groupe Meta, donc Instagram en l'occurrence,
WhatsApp, ouais,
et WhatsApp, enfin surtout Instagram par rapport à mes événements, pour digitaliser et montrer notre savoir-faire à travers les réseaux sociaux.
Et pour finir, c'est quoi l'avenir d'Alban Clairet International? Comment est-ce que vous envisagez également l'avenir du secteur, les grandes tendances qui émergent du secteur de l'événementiel de luxe de haut niveau?
Ah bah pour ma part, j'aimerais continuer à travailler pour les grandes maisons de luxe, comme je l'ai déjà avec Gucci, avec Vuitton, enfin avec plein de maisons qui me font confiance. Évidemment, développer cela, organiser des grands dîners de maisons dans la haute joaillerie, dans l'hôtellerie et dans la mode. Et enfin, internationaliser bien plus la marque Alban Clairet ou Terrace by Alban, ou et Terrace by Alban. La Terra, j'aimerais l'emmener sur d'autres festivals, parce que je pense que maintenant, elle a toute la légitimité, la marque est construite, donc on pourrait aller sur d'autres festivals. Et que mon savoir-faire avec mes équipes, qui sont à mes côtés depuis plus d'une décennie, puisse aller donner notre force et notre façon de voir les choses et de travailler hors France, oui, bien sûr, hors frontières, au-delà des mers, comme on dit.
Merci, Alban Clairet, merci beaucoup.
Rebecca.
Merci d'avoir été avec nous, et puis très bon Festival de Cannes, 22e édition.
Voilà, peut-être on vous y verra d'ailleurs.
Peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Merci d'être venu. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.
Google prend à nouveau le secteur de la pub par surprise avec un nouveau report de la suppression des cookies, événement autant attendu que redouté qui devait au départ avoir lieu en 2022. Avec ce nouveau délai, Google fixe maintenant à 2025 la fin sur son navigateur Chrome de ses traceurs qui sont toujours essentiels pour beaucoup d'acteurs de la pub digitale. L'Américain estime qu'il lui faut plus de temps pour trouver une solution alternative qui conviendra à l'industrie, aux développeurs et aux régulateurs. Le chiffre de la semaine, c'est 270 jours. C'est le délai donné à TikTok aux États-Unis pour se vendre ou décamper. Joe Biden a promulgué la loi votée par le Congrès cette semaine. TikTok, qui va tenter de renverser cette décision devant les tribunaux, met aussi en avant les effets négatifs sur l'économie de sa potentielle interdiction pour le e-commerce, pour le secteur de la pub qui en a fait un canal important pour s'adresser aux plus jeunes. ByteDance, la maison mère de TikTok, dit envisager la vente de ses activités américaines en dernier recours. L'application pourrait être valorisée entre 20 et 100 milliards de dollars. Apple prêt un gros coup d'accélérateur dans le foot. Selon le New York Times, le fabricant de l'iPhone est proche d'un accord avec la FIFA pour diffuser une nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs, qui sera organisée à partir de 2025 et ensuite tous les 4 ans. Une compétition mondiale où s'affronteront 32 équipes de tous les continents, dont les grands clubs européens, Real, Bayern ou PSG. Apple, qui diffuse déjà en exclusivité le championnat de football, de soccer américain, pourrait mettre 1 milliard de dollars pour diffuser ce nouvel événement. La pub, enfin, qui va faire son entrée dans un lieu qui en était jusque-là exempté, dans les Uber new-yorkais. La municipalité vient d'autoriser les compagnies de VTC à installer des écrans sur les sièges pour diffuser des publicités aux passagers. C'était déjà le cas depuis des années dans les taxis jaunes. La ville de New York met en avant le complément de revenus que cela offrira aux chauffeurs de VTC, puisque 25% des recettes liées à ces écrans devront leur être reversées.
Dans notre focus aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série événement de Canal+, La Fièvre, une série sur une agence de communication de crise. Aussi l'occasion pour nous de s'interroger sur l'utilité, sur la nécessité de faire appel ou non à ces agences et d'analyser leur réputation à l'heure des réseaux sociaux. Et on parlera aussi bien sûr du rôle des médias, des réseaux sociaux et de la production de Canal avec l'exploitation de ses propres chaînes de télé dans la série. Et pour parler de tout ça, aujourd'hui avec moi, Valran Mouliberto. Salut.
Salut Rebecca.
Merci d'être là. Je le rappelle quand même, tu es fondateur du groupe média Le Crayon. Et on accueille Grégoire Kopp aujourd'hui. Bonjour Grégoire.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être là. Bienvenue dans l'émission. Tu es fondateur de GRK, boutique de conseil stratégique aux dirigeants et ancien conseiller de ministre et d'IRCOM de l'OM, justement.
Tout à fait.
On est dans le thème.
Exactement.
On commence avec un rapide mot de tous les deux. Est-ce que vous avez aimé la série ou non ?
Oui, moi, enfin pour être fan de foot et au milieu et des médias et des agences de communication avec mon groupe média, j'avais l'impression parfois de revivre des discussions que j'avais vécues ou avec des clients ou avec des invités ou dans des buzz good ou bad qu'on avait vécu avec nos médias. Donc j'ai adoré la série et je l'ai en plus trouvée assez bluffante de sensations de réalité, sans rentrer dans le...
Ah, donc du réalisme. De toute façon, on va en reparler. Grégoire.
Intéressant, parce que moi j'ai bien aimé la série, évidemment. C'est du foot, c'est de la com, c'est de la politique. Mais justement, sur le réalisme, j'aurais des choses à dire parce que je ne suis pas tout à fait satisfait de certains points.
Bon, on va y revenir. On commence rapidement par notre sondage qu'on a fait sur nos réseaux sociaux. Faire appel à une agence de communication de crise est-il indispensable à l'heure des réseaux ? C'est la question qu'on vous a posée et réponse oui à 69%, c'est pas mal, c'est pas unanime. Qu'est-ce que cela reflète ? Est-ce que ça veut dire, si on grossit un peu les choses, que la com de la com est bonne ?
Oui, enfin, moi je pense que c'est le premier enseignement de cette série télévisée, c'est que c'est une série événement qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment pour son aspect, on va dire, très crise démocratique et médiatique française qu'elle dépeint. Mais ça montre aussi tous les coulisses quand même d'une agence de com de crise qui est quand même pas le sujet le plus grand public et qui pourtant, je trouve, embarque bien, on va dire, un spectateur lambda dans une aventure, on va dire, au cœur de moments où à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, il peut y avoir une décision différente à prendre. Puis sur le fond du sondage, je pense que la nécessité de la com de crise, c'est d'abord et avant tout la nécessité de pas forcément être le décisionnaire au moment où on a potentiellement des risques de perte de lucidité à cause de l'ouragan dans lequel on se trouve, quoi.
Besoin d'un regard objectif, Grégoire.
Je pense que le sondage reflète le fait que les gens ne croient pas forcément en la com, en les communicants, et c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est pour ça que c'est pas plus haut. Alors la série montre bien le besoin, parce que quand une situation explose, il faut être accompagné, mais c'est pour ça qu'au-delà de la communication de crise, moi j'irais plutôt sur la gestion de crise, avec un ensemble de choses qu'on voit pas forcément dans la série, parce qu'on voit juste tout des aspects de com, mais qui sont justement peut-être un petit peu caricaturaux par moment.
Comme quoi par exemple ?
Quand on arrive à gérer une crise et qu'on est face à un client qui est comme un lapin dans les phares d'une voiture et qui a peur, la première question c'est comment ça va ? Comment ça va ta femme, ton mari ? Comment ça va toi ? Comment tu te sens ? On prend le pouls de la personne pour voir comment elle va réagir, son degré de lucidité. Donc évidemment qu'il faut se taire, évidemment qu'il ne faut pas communiquer tout de suite pour ne pas faire d'erreur dans ces premiers moments qui sont cruciaux. Mais il y a un côté humain dans la gestion de la personne qu'on n'a pas forcément vu. Et puis la personne, elle n'est pas...
On a même vu l'inverse.
On a vu l'inverse et elle n'est pas que là à nous attendre aussi. Il y a plein de trucs qui se passent pendant ce temps-là. Parce que tous les clients, ils sont inquiets, ils appellent. Tous les salariés, c'est les premières personnes qu'il faut aller voir. Il faut rassurer parce que ces gens en interne, voilà, on parle avec les boss, avec les patrons, les patronnes, mais eux-mêmes sont concernés. Ils vont rentrer chez eux le soir, ils vont parler à leur femme, à leur mari, à leurs amis, ils vont être concernés. Donc en premier lieu, je pense qu'il faut arriver à prendre le pouls émotionnel de la situation pour pouvoir après dérouler un plan très cadré.
Donc tu disais que tu trouvais que c'était pas totalement réaliste contrairement à Valorant. Comment ça se passe réellement, autant sur le fond que sur la forme, quand on voit par exemple toutes les salles remplies des data rooms, la gestion des réseaux sociaux, qu'est-ce qui te semble réaliste et qu'est-ce qui te semble pas réaliste ?
C'est une série, c'est de la fiction, il faut faire rêver les gens. Donc, je pense que les plus belles salles de com' de crise, et notamment quand j'étais en cabinet ministériel, j'ai pu voir les cellules de com' de crise des transports en France, la SNCF, la RATP. Et là, effectivement, des choses qui sont assez à la pointe. Il y a des écrans, mais c'est pas ce côté aussi hollywoodien. Il y a un côté beaucoup plus peut-être à l'arrache, moins cinématographique. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, oui, il y a le pouls des réseaux sociaux, c'est important, on le prend, mais peut-être pas de manière aussi intense, avec autant de moyens. J'aimerais bien que toutes les agences de com' de crise aient autant de moyens, mais c'est pas forcément le cas, donc on se débrouille autrement. Après, on montre ça, ça donne un aspect qui fait rêver les gens, mais je pense qu'il aussi exacerbe un peu les critiques. Et puis après, dans la manière de gérer cette crise, il y a le côté très théorique de choses qu'on va pouvoir appliquer, mais au départ, on n'a pas le temps de la théorie. Au départ, c'est des réflexes. Et les premiers réflexes, c'est d'anticiper ce cycle médiatique qui arrive. Alors, on peut dire que ça dure 72 heures, 48 heures, 24 heures. En tout cas, c'est un ouragan, c'est une vague qui va tomber. Rien n'est plus vieux que l'actualité de la veille, donc elle va passer, cette vague, il faut le savoir. Mais quand on est dedans, eh ben, là, c'est dur, parce que ça secoue et ça remue. Et donc, nous, on est là pour anticiper, vu le sujet, vu l'état de l'opinion publique, parce que si vous avez la guerre en Ukraine qui se déclare au moment où la crise dans le football explose, elle passe au second plan, la crise dans le football. Donc, en fait, il y a toujours une part d'aléa qui fait qu'elle peut prendre des très grandes proportions ou pas.
Pour le coup, j'ai trouvé très, très intelligent la manière dont ils expliquaient et ils vulgarisaient les mécaniques de réseaux sociaux, de comment un émetteur va réussir à être repris et comment, en fait, quelqu'un qui va être plutôt de gauche va faire réagir quelqu'un qui est plutôt de droite et faire bouger
et le
sujet dans les différentes sphères.
Du numérique, des algorithmes.
Exactement. Et donc, du coup, en fait, comment on réussit à se dire cet émetteur-là va faire réagir automatiquement cet autre émetteur-là qui sont pourtant à des endroits différents du scope et du coup, ça va s'embraser de telle ou telle manière. Ça nous arrivait, nous, plusieurs fois, que ce soit pour des clients ou pour nous-mêmes, de réussir à anticiper ou à parier sur le fait qu'une réaction serait faite d'un côté ou de l'autre et du coup de pouvoir réussir à faire beaucoup de gestion de com de crise grâce en fait à cette, on pourrait dire, mécanique de la crise sur les réseaux sociaux.
Est-ce qu'on peut dire que ce qui est dénoncé, entre autres, c'est le pouvoir et l'autorité des conseillers? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Non, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Souvent, on parle de spin doctor qui vont réussir à utiliser ou prendre une personnalité politique ou publique ou un patron pour en faire quelque chose. C'est faux. Il faut vraiment savoir rester à sa place. On est là pour analyser les gens en face de nous, voir leurs failles et leurs forces, et surtout les protéger de leurs failles, qui dans ce moment de crise peut être exacerbé, et mettre l'accent sur leurs forces. Mais on ne va pas transformer quelqu'un, on ne va pas en faire une marionnette. On va pouvoir mettre des angles, allumer la lumière sur certains aspects, l'aider à contrecarrer des choses. On va pouvoir anticiper ce qui peut se passer pour mettre des barrières, et c'est souvent comme ça que j'en parle, c'est on va réfléchir à plusieurs bandes. On va voir ce qui va se passer, ce qui peut se passer, et on va mettre des barrières qui sont invisibles des gens qui ne savent pas ce qui peut arriver, mais qui, si jamais arrive, auront déjà été là pour te protéger. Donc voilà, on réfléchit à long terme de tout ce qui peut tomber et on place des choses qui ne se voient pas, mais qui protègent la personne si jamais ça éclate. On transforme la décision, on l'accompagne, exactement, mais on ne va pas la fabriquer.
Exactement.
On ne va pas fabriquer quelqu'un. Si quelqu'un est nul ou n'a pas d'idée, on ne va pas faire croire qu'il a des idées. Ouais. On prend quelqu'un qui a des visions, on voit lesquelles et on les aide à les accompagner, à se libérer, à mieux les partager, mieux communiquer en interne, en externe et prendre des meilleures décisions aussi.
Et est-ce que selon vous, l'objectif de cette série, c'est de dénoncer cela ou c'est de décortiquer le métier?
Alors là, il faut demander à Benzikri, mais je pense avant tout, c'est un peu, j'allais faire un anglicisme, mais un réveil de dire aux gens, attention, regardez aussi ces mécaniques. Et notamment, peut-être à vous, les journalistes, une vraie question, c'est pas parce que ça part sur Twitter que c'est vrai. On voit que ça peut être très facilement manipulé. Et c'est pas parce qu'on a l'impression, et c'est très dur, et je l'ai vécu dans une de mes vies précédentes chez Uber, où je me faisais harceler sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde nous parle. Mais c'est faux, la plupart des gens, c'est des bots, c'est répétitif. Donc, pour protéger nos clients déjà, arrête de regarder, on regarde à ta place. On va te dire, là, pendant 3 jours, n'ouvre plus tes réseaux sociaux, nous, on surveille. Et quand il y a des vraies menaces, et ça s'est encore arrivé il y a 3 mois, c'est nous qui prenons contact avec la police, qui mettons la personne sous protection policière, et la police va nous dire si les menaces sur les réseaux sociaux sont sérieuses ou pas. Est-ce qu'on doit, quelle décision prendre? Il faut savoir raison garder. Donc, ne regarde pas. C'est un tombereau d'insultes ou de menaces qui peut te tomber dessus, mais ça veut vraiment rien dire. Et un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de procès qui ont lieu sur des gens qui ont trollé, qui ont menacé anonymement et qui sont condamnés. Et donc, je pense que la série sert à ça, à faire cette pédagogie de « attention, il y a un risque, il y a des vagues politiques qui arrivent avec de l'extrémisme,
et des risques de diffamation également. »
Un clivage, des risques de diffamation qui font qu'après, on peut aussi faire des procès parce que tout ça est un peu faux et un peu factice. C'est une bulle du digital. Il faut la prendre en compte, mais attention à comment ça rentre dans le réel. Et là, vous, les journalistes, vous avez aussi vraiment un rôle de média. Et quand on enlève les médias et qu'il n'y a que les réseaux sociaux, ça peut poser problème. Donc, faisons attention et prenons un peu de recul.
Pour terminer, rapidement, je voudrais qu'on s'intéresse au point de vue de la production de Canal. Parce que aujourd'hui, quand Canal produit une série, elle est soumise à la validation du groupe Vivendi. Est-ce que elle servirait aux intérêts de Bolloré, selon vous?
Moi, pour le coup, ça, je suis pas du tout d'accord, et je vais rejoindre les mots de Jamel Debbouze récemment sur France Inter, qui avait dit quelque chose que je trouvais incroyablement pertinent sur ce sujet-là, parce qu'il sort une nouvelle série avec Ramsey sur les aéroports. Il disait, ça fait 20 ans, 30 ans que je bosse avec Canal, j'ai vu 3 propriétaires différents, j'ai pas l'impression de devoir changer mon travail au fur et à mesure. Je pense que la réalité, c'est que Bolloré a beaucoup d'autres choses à faire que de valider le moindre script, le moindre titre ou le moindre bandeau d'émission. Et je pense que c'est le cas de tous les propriétaires de grands médias. Qu'ils aient des lignes directrices, des choix d'hommes, c'est clair et net. Et c'est le cas, et ça se voit aussi dans l'impact. On l'a vu notamment avec le JDD, par exemple, la nomination de Geoffroy Lejeune. En revanche, sur une série comme celle-là, moi, je l'ai trouvé particulièrement équilibré et critique de tous les aspects en mettant de la nuance. C'est-à-dire que ça soit Marie Kinski, donc l'influenceuse d'extrême droite, ou j'ai plus le nom de l'influenceuse, de la militante indigéniste, je trouve que les deux personnages sont pleins de subtilité et plein de complexité qui dépasse le cadre de, en gros, on va dire, la grande revanche nationaliste ou la grande rancœur indigéniste. Et je trouve que leurs personnages sont beaucoup plus complexes, vraiment bien écrits, et enfin, en tout cas, moi, je n'y vois pas d'influence de quelconque manière du groupe Vivendi pour ses intérêts, si ce n'est leur support à eux de communication, mais ça, c'est logique.
Leur chaîne de télé, leur comme plateau télé, leur présentateur, l'émission TPMP, Grégoire.
C'est certain que Canal+ se sert de cette série pour mettre en avant ses intérêts, ses marques, ses produits. Je pense que globalement, la marque Canal+ est un petit peu protégée de l'emprise de Bolloré. Mais en revanche, moi, je pense que clairement, le groupe de médias qu'a constitué Bolloré, et il l'a dit lui-même, c'est aussi pour faire passer des idées. Il y a eu cette audition à la commission d'enquête il y a 2 semaines où il a fait un lapsus assez révélateur. Il a beau s'en défendre, s'il a constitué ce groupe de médias-là, c'est pour propager une certaine idéologie. Alors, en soi, Canal+ est peut-être protégé, notamment ses créations originales dans les séries. Et cette série-là va peut-être justement servir à Bolloré de dire « Regardez, j'ai produit cette série,
Donc servir ses intérêts
donc
de défense.
Pas, voilà, exactement. Donc c'est peut-être plutôt en défense qu'il a laissé faire cette série, qui effectivement, cet objet-là n'est pas un objet pro-Bolloré. Mais à quoi ça sert dans un grand ensemble?
Mais non, moi pour le coup là-dessus, je pense qu'il ne faut pas tout, aussi faire un procès sur tous les aspects du groupe Vivendi, parce que pour bosser énormément avec Havas aussi en tant que média digital et agence de com, Havas, ils font du business en fait. Et donc du coup, je pense que tout n'est pas idéologie, beaucoup de choses sont business, y compris dans le choix marketing idéologique de certains canaux. Ça peut être aussi du business, enfin, en tout cas moi c'est ma conviction.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'idéologie derrière les business? Il y a des choix à faire dans les business que l'on fait en fonction de certaines idéologies.
Oui.
Ce sera le mot de la fin? Quelque chose à rajouter?
Merci pour l'invitation.
Merci. Non, très intéressant.
Merci à vous deux. Merci d'avoir été avec nous, Grégoire Kopp, fondateur de GRK. Merci Valran, groupe Média Le Crayon. On se retrouve pour une prochaine émission. On verra si cette série aura des répercussions par la suite. Quant à nous, je vous dis très bonne fin de semaine, très bon week-end. C'est la fin de cette émission. Elle est évidemment disponible en podcast, en replay, sur l'application de BFM Business en intégralité. Et comme d'habitude, on termine évidemment par notre campagne préférée, notre campagne chouchou qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, c'est la dernière campagne de l'association Stop VO Enfance sans violence. Elle dénonce que les coupables sont d'anciennes victimes et que la violence est héréditaire, à l'image de son titre, L'Héritage, un film signé Cole Webley en pro bono avec Big Production et Publicis Conseil. Et je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine sur BFM Business.
Une main. Voilà mon héritage. Une main qui m'a été léguée par mon père.
Hé, mon grand, comment tu vas? Tu prends cette cuillère, tu t'assieds et tu manges maintenant. Dépêche-toi, tu te dépêches. Tu manges, s'il te plaît, tu manges. Allez, arrête!
J'aime pas!
Celle d'une autre époque.
Assez!
Celle de la violence qui se transmet de génération en génération. Une main. Cette main qui laisse des traces bien plus profondes que celles des coups.
La porte! Ouvre la porte, s'il te plaît! Ouvre la porte!
Cette main dont j'ai honte. Et dont j'ai peur. Mais on peut toujours tourner le dos à un héritage.
Hebdo.com sur BFM Business.